Radio Prague, les informations.
Bonjour à toutes et à tous, Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin dont voici les titres. L'abandon du nucléaire par l'Allemagne pourrait entraîner une augmentation de 30% du prix de l'électricité en République tchèque. Réouverture de la ruelle d'or au château de Prague. Et puis du sport, du sprint avec le sprinteur jamaïcain Usain Bolt qui a gagné le 100 mètres hier soir dans le meeting d'Ostrava. Selon certaines estimations du gouvernement, l'abandon du nucléaire par l'Allemagne pourrait entraîner une augmentation du prix de l'électricité en République tchèque de 30%. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui mercredi le Premier ministre Petr Nečas en visite à Dresde en Allemagne. Le chef du gouvernement y a rencontré le ministre-président de Saxe, Stanislav Tillich. Selon Nečas, il ne s'agit cependant encore que de calculs provisoires. En début de semaine, l'Allemagne a fait savoir qu'elle entendait fermer ses derniers réacteurs nucléaires en 2022. Déjà, Berlin a cessé d'exploiter 7 de ses réacteurs les plus anciens suite à l'accident de Fukushima au Japon. Petr Nečas a indiqué que cette décision avait entraîné consécutivement une augmentation de 10% déjà du prix de l'électricité en République tchèque. Après plus d'un an de travaux de restauration, la ruelle d'or Zlata Ulička en Tchèque, une des grandes attractions touristiques de l'enceinte du château de Prague, a été rouverte au public mercredi matin en présence du président de la République, Václav Klaus, et de son épouse Livia. Parfois aussi appelée ruelle des orfèvres et composée d'une vingtaine de petites maisons, la ruelle d'or devrait désormais posséder un aspect plus historique que commercial. Sa stabilité était menacée ces dernières années suite aux infiltrations d'eau de pluie qui avaient endommagé les fondations des maisons. D'abord habitée par des archers du roi au Moyen-Âge, la ruelle d'or a ensuite été occupée par de pauvres artisans. Ces derniers occupants ont quitté les lieux en 1948. Franz Kafka y a également habité en 1916 et 1917. On en reparle dans un instant après le bulletin dans les faits et événements. Du sport, je vous le disais en titre, avec de l'athlétisme et présent à la réunion d'Ostrava pour la quatrième année consécutive, Usain Bolt a remporté le 100 mètres en 9 secondes 91 centièmes mardi soir, soit un temps identique à celui réalisé la semaine dernière à Rome pour sa première course de la saison. En Moravie du Nord, le phénoménal sprinter jamaïcain, champion olympique en titre, vous le savez, et recordman du monde de la distance, a devancé son compatriote Steve Mullings et l'antiguais David Bailey. Avec un Usain Bolt encore en rodage, la performance de la soirée a donc été signée Veronica Campbell-Brown. La Jamaïcaine a survolé le 100 mètres féminin dans un temps de 10 secondes 76 centièmes, qui constitue la meilleure performance mondiale de l'année et la 8e de tous les temps. Petite déception en revanche pour Barbora Špotáková au lancer du javelot féminin. Devant son public, la Tchèque, championne olympique en titre et record woman du monde, a terminé deuxième du concours seulement avec 64,78 mètres derrière la Russe Maria Abakumova. Et puis juste un mot de football pour vous rappeler que c'est une nouvelle fois Petr Čech, le gardien de but de Chelsea et de l'équipe nationale tchèque, qui a reçu le ballon d'or récompensant le meilleur joueur tchèque de la saison 2010-2011. Un mot sur la météo, un temps maussade ce mercredi à Prague avec quelques pluies et des températures en baisse, entre 17 et 25 degrés pour les maximales. Dans un instant, vous retrouvez pour la suite du programme en français, Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque. La Commission pour le règlement des rapports entre les églises et l'État a présenté un projet de restitution des biens des églises. Invitation à Ostrava où a été organisée la plus belle réunion d'athlétisme de République tchèque. Tels sont les thèmes de notre émission préparée pour vous par la section française de Radio Prague. Dans la suite de notre programme, vous entendrez la rubrique chapitre de l'histoire consacrée au colonel Petr Uruba, héros de la Deuxième Guerre mondiale. Merci de rester avec nous. Les négociations sur la restitution des biens aux églises en République tchèque se poursuivent depuis de longues années sans aboutir à de résultats concrets. Lundi, cependant, la commission gouvernementale chargée du règlement des rapports entre les églises et l'État a présenté un projet qui pourrait au moins servir de base pour de prochaines négociations. Les biens des institutions religieuses en République tchèque ont été confisqués par le régime communiste. Les églises ont ensuite été soumises au contrôle de l'État. Après la chute du communisme, plusieurs gouvernements de droite comme de gauche se sont attaqués à ce problème, mais la volonté politique de trouver une solution manquait. Les négociations ont donc toujours sombré dans l'impasse et ces échecs n'ont fait qu'approfondir le fossé existant entre les institutions religieuses et la population sécularisée. 22 ans après la chute du communisme, la République tchèque manque toujours d'une loi sur le règlement des rapports de propriété entre les églises, les associations religieuses et l'État. En 2010, cette situation a été jugée illégale par la Cour constitutionnelle. Dans son dernier projet présenté lundi, la commission gouvernementale propose de restituer aux églises 56% de leurs biens, notamment champs, forêts et étangs, d'une valeur totale de 75 milliards de couronnes, quelque 3 milliards d'euros. En compensation des biens qui ne pourraient pas être restitués, l'État verserait aux églises un dédommagement de 59 milliards de couronnes, 2,4 milliards d'euros. Les paiements seraient réalisés sur une période de 15 à 30 ans. Le ministre de la Culture, Jiří Bessel, considère ce projet comme susceptible de faire avancer les choses.
Maintenant, c'est au tour des églises. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que les membres de toutes les commissions devraient être prêts à poursuivre les négociations, même pendant la période des vacances. Nous espérons que les églises nous feront connaître leur position sur notre proposition avant fin juillet.
Od církví a náboženských společností do konce července.
L'attitude des représentants des religions vis-à-vis du projet semble plutôt positive. Le président du Conseil œcuménique des Églises, Joël Rummel, rappelle cependant que les négociations n'en sont qu'à leur début.
Nous avons reçu ce projet avec gratitude parce qu'il met fin aux spéculations. Maintenant, nous pouvons négocier tous ensemble, les experts de toutes les églises et associations religieuses, et si cela est nécessaire, également avec les experts de la commission gouvernementale. Pour nous, c'est donc un pas en avant et le début d'un travail créateur.
L'opposition de gauche se montre assez réticente vis-à-vis des négociations organisées par le gouvernement. Elle considère ce problème comme un grand thème nécessitant un consensus de tous les partis politiques. Selon le candidat social-démocrate au poste de ministre de la Culture, Vítězslav Jandák, il ne faut pas brusquer les choses.
Je suis sceptique en ce qui concerne la dernière évolution. Je pense que les églises ont déjà attendu assez longtemps et que nous pourrions encore négocier avec elles en leur expliquant que l'État se trouve dans une situation difficile et que la solution à ces problèmes pourrait être un peu différée.
Parmi les arguments souvent cités pour la restitution des biens aux églises figure notamment le fait que, dans la situation actuelle, l'exploitation de ces biens dans les communes et les villes est pratiquement impossible, ce qui est la cause d'importantes pertes économiques. La restitution de ces biens est également indispensable pour la future séparation entre les églises et l'État. C'est désormais presque devenu une tradition pour la 4e année consécutive et pour la 5e fois de sa carrière. Usain Bolt a participé à la réunion d'athlétisme d'Ostrava mardi soir. Le phénoménal sprinter jamaïcain était bien entendu la principale tête d'affiche d'un meeting qu'il a vu courir sa 2e course de la saison. Vainqueur du 100 mètres en 9 secondes 91, Usain Bolt n'a pas déçu, mais n'a pas non plus ébloui l'assistance. Du coup, la vedette lui a été volée par sa compatriote Veronica Campbell-Brown, vainqueur, elle, du 100 mètres féminin, dans un temps de 10 secondes 76, qui constitue non seulement la meilleure performance mondiale de la saison, mais aussi la 8e meilleure performance de tous les temps. Retour sur la soirée de mardi et la plus belle réunion d'athlétisme organisée en République tchèque avec Guillaume Narguet.
Depuis la multiplication de ces records du monde sur 100 et 200 mètres aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, puis aux Mondiaux de Berlin un an plus tard, Le problème avec Usain Bolt est que le public attend désormais trop de lui à chacune de ses sorties. C'est sans doute la raison pour laquelle le temps de 9 secondes 91 signé à Ostrava avec un vent légèrement défavorable en devient presque banal. Certes, au regard de son potentiel et de son palmarès, le Jamaïcain est resté loin de ses meilleures performances, mais comme l'a rappelé lui-même l'intéressé, il était difficile d'en attendre beaucoup plus pour ce qui reste un retour à la compétition. À Ostrava, Usain Bolt ne disputait en effet que sa deuxième course officielle depuis près de 10 mois, et même s'il était quelque peu déçu d'avoir réalisé le même temps qu'à Rome pour son grand retour la semaine dernière, Usain Bolt était donc plutôt satisfait de sa sortie en Moravie du Nord. On l'écoute.
Oui, je pensais réaliser un meilleur chrono, mais je ne suis pas actuellement dans une forme pour battre des records du monde. Même si tout n'a pas été parfait, ma performance n'a pas été si mauvaise que ça. J'ai été meilleur dans l'exécution par rapport à Rome. Je reviens de blessure et j'ai besoin de compétition et de course pour retrouver mon niveau. J'y travaille et pour l'instant, je ne pense pas au record. L'essentiel aujourd'hui est que je me sente mieux qu'après ma première course à Rome. Je n'étais pas nerveux et je peux penser sereinement à la suite de la saison.
La suite de la saison, ce seront surtout les championnats du monde de Daegu en Corée du Sud, le grand objectif pour Usain Bolt comme pour tous les autres athlètes dans 3 mois. D'ici là, le triple champion olympique et triple champion du monde en titre entend bien être revenu à des chronos entre 9 secondes 50 et 9 secondes 60 qui le rendent pour l'heure intouchable. Intouchable sur la piste, c'est aussi le sentiment qu'a laissé au public d'Ostrava Veronica Campbell-Brown en survolant son 100 mètres dans un temps de 10 secondes 76, la sprinteuse jamaïcaine, double championne olympique du 200 mètres en 2004 et 2008 et championne du monde du 100 mètres en 2007, a signé la performance de la soirée. Une performance qui est aussi et surtout la meilleure mondiale de la saison et la 8e meilleure de tous les temps. Forcément, Veronica Campbell-Brown était très satisfaite à l'issue de la course d'avoir amélioré son record personnel de 2 centièmes.
Je me sens parfaitement bien. Le public ici est formidable et ma performance est à sa hauteur. Je pense que j'ai bien couru techniquement et cela m'a permis d'aller vite. Je ne suis pas surprise par ce nouveau record personnel. Je ne me fixe pas de limites. Je savais que j'étais en forme et que je pouvais faire de belles choses. Mais je sens aussi que si je continue à bien travailler, je peux encore m'améliorer.
Toujours dans les épreuves de sprint, Daron Robles a remporté un 110 mètres haies qui constituait un des autres temps forts de la soirée. Vainqueur en 13 secondes 14, le Cubain est toutefois resté très loin de son record du monde, 12 secondes 96, qu'il avait établi précisément à Ostrava en 2008. Enfin, l'une des autres grandes attractions pour le public tchèque était la présence de Barbora Špotáková, avec un lancé à 64 mètres 78, la championne olympique en titre et record woman du monde du lancer du javelot, a toutefois été battue par la Russe Maria Abakumova, hauteur elle de 65 mètres 81, mais pour Špotáková comme pour tous les autres présents à Ostrava mardi soir, on l'a dit, le vrai grand rendez-vous de cette saison, ce seront bien les mondiaux.
Le 71e anniversaire de la bataille d'Angleterre est célébré aussi en République tchèque. Le ministre de la Défense, Alexander Vondra, a décoré de médailles 6 pilotes tchécoslovaques ayant combattu avec les Britanniques contre l'armée allemande. À cette occasion, nous vous proposons la rediffusion d'une émission consacrée par Jirka Gisiblova au colonel Petr Uruba, membre de la Royal Air Force pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Chapitre de l'histoire.
Ancien combattant en France et en Grande-Bretagne, chevalier de la Légion d'honneur, Petr Uruba a vécu tous les moments clés de l'histoire du XXe siècle. Les événements de Munich, l'occupation nazie, les combats aériens, la condamnation à mort par les nazis, ainsi que les représailles communistes. Petr Urupa a 23 ans lorsqu'il rejoint l'armée tchécoslovaque en 1935. Deux ans plus tard, il termine sa formation de pilote de bombardier. Ainsi, avant son départ en Occident, il avait passé plus de 340 heures dans l'air. Il a rejoint la RAF en passant par la Pologne et par la France, raconte Ladislav Kudona, historien de l'Institut d'études des régimes totalitaires et auteur du livre « Un des hommes oubliés » dont Petr Urupa est le personnage central.
En France, Petr Urupa n'a pas eu le temps de prendre part à des actions de combat. Une fois Paris tombé, il a commencé sa carrière de pilote de guerre sur le sol britannique dans le cadre du 311e escadron tchécoslovaque dont il était membre fondateur.
Le départ des engagés volontaires tchèques en Occident au printemps 1939 a été une grande inconnue, lit-on dans le livre « Un des hommes oubliés ». On ignorait ce qui allait arriver, la France et la Grande-Bretagne, où ces hommes ont décidé de rejoindre la résistance à Hitler, étaient alors dirigés par les mêmes chefs d'État qui avaient signé les accords de Munich. Il a donc fallu beaucoup de courage et de détermination pour faire face aux dangers qui les attendaient. Ladislav Kudrna.
Le colonel Urupa, à l'époque sergent de l'aviation royale, a pris part à six missions extrêmement dangereuses, se déroulant dans le ciel de l'Europe occupée et du Troisième Reich. Il était le deuxième pilote dans l'équipage du lieutenant František Cigoš. Le 6 février 1941, l'équipage a été fait prisonnier après que leur avion ait atterri par erreur sur le territoire de la France occupée. Les circonstances de cet atterrissage n'ont jamais été élucidées. On se demande si ce n'était pas un piège de la part des Allemands.
Petr Urupa a passé plus de 4 ans en captivité. En 1944, il a été condamné à mort pour avoir levé son arme contre le Troisième Reich. Mais il a échappé à l'exécution de la peine grâce à une intervention rapide des Britanniques.
Une chose très importante est qu'il ait été fait prisonnier en uniforme d'officier britannique. Il ne faut pas oublier que le sort des premiers pilotes tombés en captivité en septembre 1940, donc pendant la période de la bataille d'Angleterre, était très incertain et que les nazis voulaient réellement les exécuter. Heureusement, la réaction britannique qui a suivi lorsque Churchill a menacé de représailles des otages allemands a eu un écho positif et, sur intervention personnelle du commandant du camp de prisonniers, l'équipage de l'avion dans lequel le sergent Urupa servait n'a pas été remis entre les mains de la Gestapo mais transporté dans un camp pour prisonniers de guerre.
En 2005, le colonel Petr Urupa a été décoré par l'ancien président français Jacques Chirac des insignes de la Légion d'honneur lors de la remise de la distinction à l'ambassade de France à Prague. Le rôle des combattants tchèques dans le combat pour la liberté avait été évoqué par l'ambassadeur Monsieur Joël de Zorzi.
Près de 50 000 d'entre eux auront ainsi servi pendant la Deuxième Guerre mondiale aux côtés des forces alliées. Engagés dès 1940 dans la bataille de France, où plusieurs d'entre eux laisseront la vie, les combattants tchécoslovaques continuent la lutte en Angleterre avec les autres pays alliés et les forces françaises libres. La brigade autonome tchécoslovaque, incluse dans le dispositif de défense britannique, comptera ainsi 4 à 5 000 hommes et fera partie des troupes débarquées en Normandie. Elles seront engagées en septembre 1944 dans la bataille de Dunkerque. Au total, 2200 pilotes tchécoslovaques, dont certains s'étaient déjà illustrés dans la bataille de France en 1940, serviront dans la Royal Air Force au sein des célèbres 310e, 311e, 312e et 313e escadrons.
Dans leur pays, la Tchécoslovaquie, les combattants des fronts de l'Ouest ont connu les prisons communistes, les camps de travaux forcés et les mines d'uranium. la problématique des persécutions subies par les pilotes de la RAF entre 1948 et 1989 est analysée pour la première fois dans son ensemble dans le livre « Un des hommes oubliés » paru à la fin de l'année 2008. Petr Urubá en est le personnage principal, mais il y sert aussi de guide à travers les événements du XXe siècle. On y apprend qu'il a été mis à la peau de l'armée, poursuivi systématiquement par la STB, qui, lors de l'un des interrogatoires, l'a battu si violemment qu'il ne pouvait plus marcher. On écoute l'auteur de la publication.
Il est certain qu'après février 1948, Petr Urubá est devenu du jour au lendemain un serviteur de l'Occident, haï, puisqu'il avait combattu pour les intérêts du capitalisme en Grande-Bretagne. Sur injonction de Bedřich Hřecín, vice-ministre de la Défense nationale, qui en janvier 1949 a établi une liste de 137 anciens membres de la Royal Air Force qui devaient être renvoyés de l'armée, le capitaine de l'aviation Petr Urubá devait être dégradé sans appel. Il se souvient dans le livre avoir été obligé de se présenter immédiatement dans les casernes et qu'ensuite il a été escorté par la police militaire.
Le pilote Petr Urubá, qui parlait cinq langues, occupait jusqu'en 1963 des postes ouvriers non qualifiés. Dans les années 60, il a été partiellement réhabilité et rappelé dans l'armée qu'il a dû quitter à nouveau pendant la période de normalisation dans les années 80. Petr Urubá eut la chance de vivre la chute du régime totalitaire. Après 1989, il a été entièrement réhabilité et élevé au grade de colonel de l'aviation. Le parcours exceptionnel du doyen des pilotes de guerre tchécoslovaques Petr Urubá s'est achevé le 1er mars 2009.
C'était donc la rubrique chapitre de l'histoire. Ainsi prend fin la première partie de notre émission. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur www.radio.cz/fr.